et Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bonjour, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Émission On en jase de votre lundi. Émission, on parle d'actualité. Actualité locale, provinciale, fédérale. Aujourd'hui, on va s'attarder également de l'international avec Luc Laliberté aux alentours de 13h. On sait plus quoi penser du dossier en Iran. Luc va tenter de nous simplifier le tout. On va également parler de politique provinciale dans quelques instants dans le caucus avec Emmanuel Latraverse,
et voilà.
Avec Emmanuel Latraverse, je me corrige. Emmanuel qui rit, justement, avec raison. On va surtout parler de ce conseil des ministres qui sera annoncé demain par Christine Fréchette. Un conseil des ministres que je dirais à première vue dans la continuité. J'ai bien hâte d'entendre Emmanuel là-dessus. On va revenir sur la polémique, sur la clause dérogatoire, la loi 96 avec Charles Milliard. Puis Mark Carney qui nous a fait un beau petit vidéo de 14 minutes sur YouTube. Pour pas dire grand-chose en 14 minutes, mais pour parler quand même. Donc on va regarder le tout. Alex Laramé sera également dans l'émission aux alentours de 12h40 pour parler de cette superbe victoire du Canadien de Montréal hier. 4-3, Pascal Sévin, en prolongation contre le Lightning de Tampa Bay. C'est 1-0 pour les Habs contre le Lightning. Prochain match demain soir. On va faire le tour également des autres séries qui ont débuté ce week-end, notamment défaite des Sénateurs d'Ottawa 2-0 face aux Hurricanes de la Caroline. Mais avant tout ça, Pascal, est-ce que tu as passé un beau week-end?
Merveilleux week-end. Quelle belle journée samedi. Puis hier, on ne se sentait pas coupable de faire nos commissions, la cuisine et tout. Il pleuvait.
Du tout. Hey, samedi, j'étais à Montréal. Il faisait 22 degrés. Wow. On s'est promené en T-shirt et en culotte courte toute la journée.
Tout le monde revivait. J'étais allée du côté du ski-touring au Mont-Stonable. Il y avait du monde. 10 000 personnes, Jeff. C'était fou. Tu dis, Colin, les terrasses des restos en y allant étaient pleines. Québec commence à revivre.
Ah, écoute, à Montréal, en fin de semaine, là, j'ai vu tout le monde avec le sourire.
Ah ouais, hein, ça fait du
tout
bien.
Tout le monde est heureux. Ben des violonistes qui jouaient sur la rue Sainte-Catherine, plein de musique, le monde tapait des mains.
C'était-tu propre?
Oui, honnêtement, je te dirais qu'on parle régulièrement mal de Montréal. Moi, j'ai adoré ma fin de semaine. J'ai trouvé que la ville était belle. Je veux dire, reste du ménage printanier à faire comme n'importe où. Là, si tu regardes ça à Québec, il en reste.
Rien de gros à signaler.
Beaucoup moins d'itinérance que je peux voir à Saint-Roch.
Bon, ça doit dépendre des secteurs, parce qu'il y a quand même des campements à Montréal.
Je me suis promené, Sainte-Catherine, Maisonneuve, Saint-Denis, Sherbrooke. Fait que c'est ça. Les étudiants de l'Université McGill étaient en feu samedi soir. Ça s'en allait partout dans des parties, habillés comme le printemps. Donc, bref, c'était très, très, très plaisant. Un petit week-end en amoureux avec ma douce. On est allé voir Jérôme 50 au Foufoune électrique le vendredi. Il a donné une performance endiablée. On ressort de là en ayant gagné des passes pour le Vans Rob Tour, moi et Val. Donc, Val et moi. Donc, on s'en va là, fin août, au Parc Jean-Drapeau.
Extraordinaire. Ça aussi, là, ça va être un bel événement, là, j'ai l'impression, parce que c'est plein à chaque fois.
Exactement. Donc, non, moi, j'ai... Toi, on parle beaucoup en mal de Montréal, mais moi, j'avais rien à dire en mal cette fin de semaine. J'ai adoré mon week-end. Aller visiter la métropole, ça vaut la peine, justement, de s'encourager entre grandes villes au Québec. Avant de parler avec Emmanuel Latraverse, je me corrige. Quelques manchettes, Pascal, pour débuter.
Oui, tu l'as peut-être goûté, cette inflation au niveau de l'essence qu'on a connue dans les dernières semaines en allant à Montréal en fin de semaine. Mais c'est moins cher quand même du côté de la métropole ces temps-ci. Mais la bonne nouvelle, c'est que le prix de l'essence aujourd'hui, il faut voir peut-être une constatation. C'est la taxe de 10 cents le litre qui est suspendue. Ottawa l'avait enlevée jusqu'en septembre prochain. On avait fait l'annonce il y a peut-être une semaine et demie. Et c'est cette taxe d'assise fédérale-là sur l'essence qui risque de vous faire souffler un peu à la borne. Donc, taxe fédérale de 10 cents le litre qui est tombée, c'est 4 cents sur le diesel. On devrait voir bouger tout cela dans les prochains jours. Inflation qui a augmenté à 2,4% en mars au Canada, c'est important de le dire malgré tout, ça a des impacts. Début d'année canon aussi pour les mises en chantier à Québec, donc construction résidentielle qui faiblit pas. C'est Radio-Canada qui nous rapporte que ça a doublé depuis le début de l'année comparativement à la même période en 2025. On est à près de 1380 mises en chantier d'habitation confirmées au premier trimestre de 2026. Ça, c'est par la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Ce matin, vous l'avez vécu dans l'émission avec Yannick et Max. Gros accident du côté de l'autoroute 20.
Oui, vraiment.
Tout le monde a dû être très patient.
Deux poids lourds, hein?
Oui, on est dans des poids lourds, effectivement, autour de 8h40 qui se sont emboutis, là, un en l'arrière de l'autre sur l'autoroute Jean-Lesage. C'était direction ouest. Mais malheureusement, c'était à l'auteur de l'avenue Taniata. Déjà, c'est difficile le matin. Ajoutons à ça cet accident-là. Heureusement, je peux vous dire que ce qui a été le plus spectaculaire, c'est le déversement d'huile de diesel sur la chaussée. C'est pour ça qu'on a eu une intervention du ministère des Transports. Parce que la bonne nouvelle, c'est que le conducteur qui a été percuté, oui, est au centre hospitalier, mais c'est une mesure préventive. On ne craint pas pour sa vie. Par contre, le secteur est encore difficile autour de 11h15 aujourd'hui. Là.
Exactement. Ça crée énormément de congestion.
Et en terminant, on va en parler dans quelques instants, mais c'est une grosse semaine pour Christine Fréchette. Christine Fréchette qui va annoncer son conseil des ministres et qui était à Tout le monde en parle hier aussi.
Le caucus. Ce qui se passe autour de nous, ce qui influence nos vies, les vrais enjeux expliqués simplement. Emmanuel Latraverse vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Caucus avec Emmanuel Latraverse, c'est de midi à midi 30 du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 102.1. Emmanuel, comment vas-tu?
Ça va bien, bon lundi.
Merci, passe un beau week-end.
Toujours, il faisait beau.
Hein, l'enfer, hein?
Non, mais juste le fait qu'il y ait du soleil, là. Pouvoir sortir dehors du soleil et ne pas avoir froid, c'était comme absolument divin.
C'était rêvé. Hey, Emmanuel, je commence avec ça. 30 secondes, j'en ai parlé justement d'entrée de jeu. Est-ce qu'on est trop critique envers la métropole Montréal? Parce que moi, j'ai passé un... Non, mais c'est vrai! Moi, j'ai passé un super beau week-end, mangé dans un des meilleurs restos que j'ai mangé samedi soir, aller voir un show Foufoune électrique. Il faisait beau, j'ai trouvé que Sainte-Catherine était belle, j'ai magasiné dans les commerces.
T'es sûr, c'est pas parce que t'étais en congé, Jeff, que c'était fermé?
Peut-être que c'est parce que t'es en congé, peut-être que c'est parce que j'aime trop ma blonde, puis j'étais avec elle, puis je tripais. Mais Colin, moi, j'ai vu moins d'itinérance qu'à Saint-Roch, à Québec, j'ai vu une ville, tu sais, pas propre, mais pas sale non plus, tu sais, je veux pas... Je me suis dit, écoute, moi, à l'autre bout...
Je pense que ça dépend des quartiers, là. Mais tant mieux si Montréal, aux yeux des gens de Québec et des gens de l'extérieur, recommence à trouver son lustre. Moi, comme Montréalaise à temps partiel, je peux te dire que le problème de Montréal, ça demeure celui pour les gens qui y habitent, là, de circuler, là, tu sais.
Oui, hein?
Je veux dire, les cônes orange, les nids de poules, mais tu sais, on est rendu avec des nids de dinde, là, tellement qu'ils sont
ça,
comme énormes et monumentales.
Sur Sherbrooke, hier, quand je suis parti de l'hôtel, et là, je vais aller prendre le pont Jacques-Cartier, à un moment donné, j'ai dit à ma conjointe, qui essayait de lire son livre, hey, « Excuse-moi, tu ne seras pas capable de lire parce que là, je contourne les nids d'autruche. »
Non, non, mais c'est comme une partie de golf là, qu'on tire dans Montréal. Tu sais, quand je pense, peut-être qu'il faudrait que je m'achète un Jeep, tu sais, jacké, là, pour pouvoir sommer. Je pense que c'est ça qui fait que les Montréalais sont tellement à cran.
Je comprends.
Et la mairesse de Montréal a raison. Tu sais, qu'à un moment donné, il faut... Peut-être si on recommençait à l'aimer plutôt que toujours la critiquer, là, se libérer de notre syndrome de stress post-traumatique, peut-être qu'elle irait mieux, notre métropole.
Ben peut-être. En tout cas, j'ai passé un beau week-end. Tout à l'heure, par contre, je vais parler plus en détail avec Pascal et avec Alex Laramie, notre journaliste à Montréal. Pour la première fois, je suis allé dans un commerce et je me suis fait servir uniquement en anglais.
Ah oui, hein?
J'ai trouvé ça particulier. J'ai décidé de parler en français.
Il faut dire non en français?
J'ai décidé de parler en français, mais ça m'a pris une heure pour avoir deux cocktails. Au moins, ils m'ont offert gratuit, mais j'ai trouvé ça drôle.
Oui, mais il faut faire preuve de résistance. Tu sais, ma mère, quand j'étais petite, qui se faisait servir en anglais chez Eaton, elle sortait, hein?
C'est ça. Ben, alors, moi, j'ai juste parlé en français.
C'est un peu la même chose, mais on a perdu ce muscle-là, je pense, dans les faits, là.
Exactement. Puis, je comprends que je suis autour de l'Université McGill et qu'il y a plein d'étudiantes et d'étudiants anglophones qui travaillent. Ben, ils peuvent apprendre une couple de mots en français par la bande puis ça devrait bien aller.
Ça l'aiderait.
Ça l'aiderait.
Donc, s'ils étudient en Allemagne, ils apprendraient une couple de mots d'allemand.
C'est ça, exactement. Le Québec, la langue est la langue française. Hey, parlant de ça, tiens, on va sauter directement dans le sujet. Charles Milliard Et la clause dérogatoire de la loi 96, je le sais, tu étais à l'antenne avec Mario Dumont tout à l'heure, mais pour nos auditeurs, je vous fais entendre comment, puis là, je vais reprendre ton expression de tantôt à la télé, comment ils essayent de remettre la pâte à dents dans le tube. C'est bien ça, hein, je pense.
Là, ils leur sortent.
Ah, c'est ça.
Il y a de la pâte à dents partout. C'est la morale de cette histoire.
On l'écoute justement et par la suite, je te fais commenter.
Non, je suis désolé. Le respect des droits des autres, ça fait quand même depuis que je fais de la politique que je dis ça. Je pense que c'est une façon très libérale de procéder. Puis vous savez, sur la clause dérogatoire, on dirait qu'il y a trois façons de voir ça. La CAQ utilise la clause dérogatoire sans justification, sans explication sur l'ensemble d'un projet de loi. Le Parti conservateur du Québec, lui, ce week-end, nous a dit qu'elle allait l'utiliser dans tous les projets de loi. Alors, on prend note de ça. Au Parti libéral du Québec, moi, je vais agir avec rigueur et méthode. Donc, je vais rouvrir la loi 96. Je vais m'asseoir avec les juristes du ministère concerné, de l'Assemblée nationale. Et s'il y a des besoins d'utiliser la clause dérogatoire, je n'hésiterai pas à le faire dans l'intérêt supérieur du Français et des Québécois. Point final.
C'est moi qui est dans le champ, Emmanuel, mais le nationalisme, la langue française, tu sais, ça se règle pas de façon cartésienne. C'est quelque chose qu'il faut travailler fort pour protéger, surtout avec l'expérience que je t'ai parlé à Montréal en fin de semaine. Donc, je trouve l'approche de Charles Milliard qui est trop bureaucratique dans cette dans le fait de la clause dérogatoire.
En fait, moi, si tu veux une loi qui est bureaucratique à souhait, là, et qui est bureaucratique au point de donner des maux de tête à quiconque tente de l'appliquer, c'est la loi 96, c'est le fond de du problème de cette loi-là. Hein? C'est parce que le gouvernement de la CAQ n'a pas eu le courage d'imposer la loi 101 au Cégep.
En effet.
On s'est ramassé avec des montagnes de règles totalement absconses, là, qui sont un véritable casse-tête pour beaucoup. Moi, je pense que M. Milliard, dans les faits, a une position beaucoup... C'est quoi être nationaliste? Aux yeux du PLQ, M. Milliard a une position beaucoup plus nationaliste que celle de son caucus, qui voit la clause dérogatoire comme l'antéchrist, là, tu sais. Donc, on ne peut jamais l'utiliser, c'est toxique, toxique, méchant, 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 il faut toujours protéger les minorités, etc., etc. Lui, les force en vérité à dire, écoutez, s'il faut y aller, il faudra y aller. Puis à un moment donné, vous allez arrêter de faire un enjeu de ça parce qu'on ne gagnera jamais dans le vote francophone. Donc, lui a pris un vrai cap nationaliste par rapport à ce qu'était le Parti libéral depuis 8 ans. Mais dans les faits, le nationalisme a bougé sous la CAQ. Donc, il y a des attentes plus élevées. Mais moi, je ne suis pas prête à dire que ce qu'il propose sur la langue française est inintéressant et qui est prêt à pas la défendre. T'sais. Est-ce que vraiment il faut imposer des montagnes de bureaucratie à des PME de 25 employés sous prétexte qu'il faut les soumettre à la loi 101? De dire que, comme premier ministre, tu vas revoir ça, c'est pas une mauvaise idée. De dire qu'il faut rouvrir la loi pour offrir plus de de francisation, valoriser la culture, améliorer la maîtrise du français chez les jeunes, chez les enseignants, etc. Moi, je pense que c'est quand même une approche très libérale, tu vas me dire, mais qui est assumée. Puis le fait qu'il maintienne la ligne qu'il serait prêt à utiliser la clause dérogatoire, ça tranche. C'est pas le même discours que celui du PLQ. Le problème, c'est que c'est sorti tout croche. Il n'était pas supposé parler de ça la semaine dernière. Il s'est fait amener sur ce terrain-là par un journaliste. Ça a causé des frictions dans son caucus. Il a essayé de mieux s'expliquer le lendemain, ça n'a pas bien passé. Puis là, il est obligé. Alors là, à un moment donné, là, c'est complètement confus. Là. C'est comme tirer une leçon. Quand vous avancez sur des enjeux identitaires, c'est en plus comme Parti libéral, tu veux montrer une rupture avec l'ère Anglade, là, tu sais, canadienne, ben, fais-le bien, puis fais-le pour que ce soit clair, tu sais. Parce que là, il aurait pu, je pense, marquer des points avec cet élément-là, mais à cause de la confusion qui a duré pendant 3 jours, ben, c'est un peu peine perdue, tu sais.
La morale de l'histoire pour Charles Milliard, est-ce que c'est lorsqu'on va s'adresser justement à la question identitaire, au nationalisme, à la laïcité, d'avoir validé le tout avec son caucus avant pour pas qu'il y ait ce double message-là ou cette chicane-là à l'interne?
Ben, valider, non, c'est enfoncer en travers de la gorge de son caucus.
Oui, en effet, parce que tu n'as pas le choix.
C'est un peu ça le message de ce qu'on comprend qu'il leur a dit. C'est écoutez, les amis, voulez-vous rester député d'opposition toute votre vie, là?
En effet, parce que c'est ce qui va arriver.
Si vous voulez gagner, il faut gagner dans le vote francophone, puis il faut que le Parti libéral redevienne un parti nationaliste, là.
Oui.
Alors, tu sais... Alors, il va, mais je pense qu'il y a une leçon là-dedans dans lui sur comment gérer ces enjeux-là. Puis, c'est un test aussi, hein, parce que dans les faits, le caucus a mangé tout rond, Mme Anglade, qui voulait prendre un virage nationaliste, mais elle n'a pas su leur résister. Alors, c'est une question de comment lui va être capable de gérer son caucus et de lui imposer, justement, cette espèce de d'ouverture, là, à prendre les moyens qu'il faut pour reconnecter avec l'électorat francophone.
Mais la tension ou les tensions semblent moins fortes quand même sous Milliard que sous Anglade. Je ne sais pas si c'est le contexte politique, je ne sais pas si c'est le après Marois Risky, Pablo Rodriguez. Il y a quelque chose là qui semble laisser plus de latitude à M. Milliard, non?
Ben, c'est la latitude de la dernière chance puis la latitude des sondages, tu sais. Je veux dire, ils ont franchi le cap des 30 % de peut-être pouvoir gagner. C'est plus complètement exclu. Donc, à un moment donné, ces gens-là savent compter, savent lire des sondages, savent faire preuve d'un minimum de flair politique. Et c'est sûr, je pense qu'il y en a des traits dogmatiques là-dedans, là. Mais ils sont un peu à la croisée des chemins. Puis je pense que ça contribue à donner de l'autorité à M. Milliard auprès de son caucus. Là.
Vous êtes dans le segment Le caucus, justement, avec Emmanuel Latraverse, segment du lundi au jeudi sur les ondes de Boulevard 101, l'émission On en jase. Emmanuel, demain, 12h30, ça sera l'annonce du nouveau conseil des ministres de Christine Fréchette. Il va-tu être nouveau ou pas si nouveau que ça? On l'écoute hier soir à Tout le monde en parle avec Guillaume Lepage.
Selon le Journal de Montréal, Éric Girard restera aux finances, Sonia Bélanger à la santé, Sonia Lebel à l'éducation, France-Hélène Duranceau au Trésor, Simon Jolin Barrette à la justice. Si tel est le cas, il est où le changement?
Alors, écoutez, je ne vais pas m'avancer sur la composition du Conseil des ministres. Il faut être patient. Ça va être un peu plus tard cette semaine. Ça va être mardi, en fait, que je vais vous présenter ça, le Conseil.
Un petit coup, là.
Ah. Donc, ça sera, ouais, ça sera le changement ou la continuité?
Ça va
continuité?
Être un bon Conseil des ministres. C'est ce que je
mais,
peux
mais
vous dire.
Est-ce que ça va être le changement ou la continuité?
Ça va être un mélange des deux, parce qu'il faut à la fois assurer que ce qui était déjà en cours et qui mérite d'être poursuivi puisse être poursuivi. Et puis là où on a du renouveau à apporter, on va l'assurer, on va le mettre en place.
Emmanuel, je comprends très bien que Christine Fréchette dispose de peu de temps puis que ce n'est pas le temps de mettre plein de nouveaux ministres à plein de nouvelles places parce qu'ils ne seront pas capables d'avancer aucune chose. Ils vont être en apprentissage. Mais quand même, ça va être dur à faire passer à la population parce que ça ressemble énormément à une continuité de l'ère Legault.
C'est sûr qu'on est dans le changement dans la continuité. Là. Ça a commencé avec l'erreur stratégique là, de faire une rencontre devant les caméras avec M. Legault. Là. C'est comme s'il passait le flambeau. Mais je la comprends, elle a tellement peu de temps. Et parce qu'on est déjà le 20 à 21 avril demain, que la session parlementaire se termine à la mi-juin, il n'y a aucune marge de manœuvre. Et la réalité, c'est que prends le conseil du Trésor, si tu nommes un nouveau ministre, ça va lui prendre 3 mois à comprendre.
Ben, c'est ça.
Alors, dans les faits, elle ne peut pas vraiment changer les porteurs de ballons dans les dossiers où elle veut marquer les esprits.
En plein ça, et que tu parles du Conseil du Trésor, puis je fais le pont avec le ministère de la Santé aussi, où Sonia Bélanger devrait rester. Je crois qu'un grand marqueur qu'elle doit mettre d'ici à la fin de la session parlementaire, c'est de régler avec les médecins spécialistes. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un de nouveau.
Ça urge énormément et totalement, mais c'est un bel exemple. Si tu changes de ministre, au Conseil du Trésor, que tu changes de ministre à la Santé, etc., comment tu t'en sors? Je pense que la porte qui reste à Mme Fréchette, premièrement, il y a un ministère important pour la CAQ qui n'est pas attribué et qui, je suis à peu près à 99% convaincu, va changer de porteur de ballon, c'est immigration. C'est le super ministre de l'identité, là, tu sais, immigration, laïcité, etc., M. Roberge n'a pas réussi à défendre ce dossier-là. S'est retrouvé écartelé. S'est retrouvé désavoué par Mme Fréchette. Ça, c'est vraiment un dossier où tu peux faire une grosse différence. Puis pour le reste, je pense que son calcul, c'est un peu... c'est la technique Louis XIV, là. C'est pas l'État, c'est moi, mais le changement, c'est moi. Ouais. Et que le changement va être incarné par sa façon de gouverner, par les quelques réformes qu'elle va mettre en place. Et par sa capacité de maintenir l'unité du parti, tu sais. Et ça aussi, ça limite ce qu'elle peut faire dans la mesure où M. Drainville lui a demandé l'économie et l'énergie, puis il y a 42 % des électeurs qui ont voté avec lui. Elle est obligée de lui donner un gros ministère. Si les autres gros ministères, elle les bouge pas, ben le seul qui reste de libre, c'est lui, là.
Oui, c'est ça, parce que c'est
alors,
elle...
C'est ça aussi, c'est l'effet domino.
C'est ça, parce que c'est elle qui occupait ces fonctions-là. Mais justement, sur Bernard Drainville, est-ce que les compétences pour être ministre de l'Économie et de l'Énergie, tu sais, je regardais son baccalauréat, il n'y a pas nécessairement d'études ou de travail si poussé en économie?
Ben, est-ce que Mme Fréchette était compétente? Elle a été présidente de la Chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal. Là. Excuse-moi, là, c'est pas PDG d'Airbus. Là, je veux dire, à ce rythme-là, on s'entend. Là. Je pense que les compétences très fines sont plus nécessaires quand c'est la question du ministre des Finances. Je pense que le ministère, la job du ministre de l'Économie, c'est de donner des orientations politiques, à savoir comment on va utiliser les leviers de l'État pour stimuler la croissance économique. Alors, est-ce qu'il fera un bon ministre de l'Économie ou pas un bon ministre de l'Économie? On verra, mais je te rappellerai que quand Mme Fréchette a été nommée, plusieurs étaient très surpris. Justement, c'est à cause vrai. De son manque d'expérience, son manque d'autorité, etc. Puis bon, elle a réussi à très bien tirer son épingle du jeu, assez pour se forger une réputation qui lui a permis d'être élue première ministre. Alors, c'est dans les faits, je pense qu'il y a une obligation de cohésion dans ce parti-là qui urge, parce que le PQ que le Parti conservateur d'Éric Duhaime tentent de lui grappiller toute son aile nationaliste. Donc, c'est pas mal ça aussi. Là. Des fois, il y a, tu sais, le mieux est l'ennemi du bien. Madame Fréchette, fallait qu'elle se contente de quelque chose qui marche sur ce front-là. Là.
Clairement. Parlant de changement, on a eu un gros changement l'an passé, à peu près à pareille date, c'est le 28 avril 2025, alors que Mark Carney devenait premier ministre. Et là, Mark Carney s'est présenté comme étant celui qui allait négocier avec Donald Trump et régler nos problèmes de la guerre tarifaire. Un an plus tard, il n'y a pas d'avancée. Et voici ce que Mark Carney nous a dit dans sa vidéo YouTube ce week-end.
La voici. Cette réalité. Le monde est plus dangereux et plus divisé qu'avant. Les États-Unis ont changé de direction. Leur approche au commerce s'est transformée. Cette hausse des tarifs, c'est du jamais vu depuis la Grande Dépression. Nos forces traditionnelles, qui reposaient sur des liens étroits avec l'Amérique, sont maintenant des faiblesses. Nous devons agir.
Je comprends que personne peut contrôler Donald Trump, pas même ses conseillers rapprochés, mais tout de même, après un an, Emmanuel, on n'a pas le choix de se rendre compte que Mark Carney a échoué dans sa grande promesse.
Oui, puis un peu un aveu de ça hein, dans son discours en fin de semaine, là. De dire, ben là, finalement, on comprend qu'on ne pourra pas les contrôler, puis que ça va être plus compliqué, puis que le Canada est carrément affaibli, là. Mais dans les faits, je pense que l'électeur qui voit ça, se dit, OK, Mark Carney n'a pas livré là, un règlement, il a pas réussi à amadouer Donald Trump, etc. Okay. Est-ce que quelqu'un s'imagine qu'un autre premier ministre aurait réussi?
Ben non, exactement. T'as entièrement raison.
Et c'est ça qui lui permet, je pense, en ce moment, de continuer à surfer sur un immense capital de sympathie et de bonne foi de la part de l'électorat, parce que c'est pas comme si Donald Trump était comme ce qu'on disait comme un voyou avec le Canada, mais qui était cohérent, rationnel et constructif avec le reste du monde, là. Tu sais, je veux dire, sur l'échelle des délires, finalement, on s'en sort pas plus mal que les autres. Alors, l'électeur le voit, ça, là. Alors, c'est ça qui fait que, ben, finalement, Mark Carney, c'est peut-être bien. Moi, le reproche que j'ai, cependant, face à ce genre d'exercice-là, c'est que on n'a rien appris.
C'est vrai.
M. Carney n'est pas un premier ministre qui donne vraiment des entrevues de fond au Canada. Il s'assoit pendant une heure et demie avec un podcast britannique. C'est absolument fascinant, mais il ne se prête pas à ce genre d'exercice-là ici. Et dans les faits, les Canadiens ont compris gros changements, grands projets, investissements militaires, moderniser l'économie, investir sur ce qu'on peut contrôler. Ça fait un an qu'ils répètent ça. Mais là, c'est OK, on va où maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ce gouvernement-là doit ajuster son plan de match? Peut-être qu'on aura réponse à ça dans la mise à jour économique
de la semaine prochaine.
Mais j'ose espérer, parce que le problème, c'est qu'à part de reconnaître que le Canada est carrément en position de faiblesse, il n'a pas fait preuve d'une très grande transparence quant à où lui s'en va et comment lui compte aborder ces enjeux-là face à une administration Trump qui continue à détester le Canada, là.
Non, mais t'as entièrement raison, puis je termine là-dessus. T'es même le président finlandais, la semaine dernière, en visite au Canada, a déclaré, ben, le Canada, c'est comme un pays européen, on le voit dans l'Union européenne, mais là, on sait pas trop où Mark Carney se situe là-dedans.
Ben, non, ben, c'est ça. Alors, il y a, tu sais, la liste des questions à lui poser. Je suis pas sûre que, tu sais, quand t'es premier ministre, le choix, c'est où tu investis ton capital politique. Est-ce que le meilleur endroit, c'est d'investir le capital politique dans la lubie de devenir un membre de l'Union européenne?
Ouais.
Ou bien c'est de se concentrer pour signer des contrats militaires, faire des partenariats avec l'Europe? Tu sais, moi, je pense que c'est davantage là-dessus qu'il se concentre. Puis dans les faits, c'est la raison pour laquelle le Canada a payé le nécessaire pour se joindre au grand pacte d'investissement en défense européen, justement pour obtenir les avantages de cette proximité stratégique avec l'Europe, puis se sevrer de notre dépendance sur le matériel militaire américain.
Ça, c'est clair, net et précis. Emmanuel, la traverse, c'est toujours un bonheur de te parler. On se parle demain aux alentours de midi.
Très bien, au revoir.
Salut, bonne fin de journée. Emmanuel, la traverse dans le caucus, justement, avec nous du lundi au jeudi de midi à 12h30. Après la pause, on va faire un saut à Montréal, Pascal CV, parce qu'on va aller parler avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif, concernant ce match du Canadien de Montréal hier.
Vous vous êtes rendus, les gars.
Victoire de 4-3 du Canadien en prolongation. Tour du chapeau de Ural Slafovski. Écoute ça, qu'est-ce que ça avait l'air.
Here comes Suzuki in. Midpoint Hudson, down low, Slafkovski scores! It's a hat-trick! Overtime! Winner for Juraj Slafkovski!
Pas un, pas deux, mais trois buts pour Slafkovski. Les trois en avantage numérique, le but gagnant en prolongation, le Canadien mène 1-0 dans la série. Je suis certain qu'Alex Laramé à Montréal trippe sa vie.
Je suis encore surprise que vous n'ayez pas pété du cœur avec une game comme hier.
Ah, c'était un bon match, c'est le fun, c'est le fun à voir. Et je vais revenir justement sur cette expérience que j'ai vécue à Montréal pour la première fois. Je me suis fait servir uniquement en anglais, puis moi j'ai parlé uniquement en français. Ouf! Ça n'a pas été facile. On en jase dans quelques instants.